On a souvent l'habitude de penser que la création musicale, c'est un domaine complètement sanctuarisé, genre une sorte de forteresse où seule l'âme humaine aurait le droit de citer.
Ouais, le fameux mythe du génie torturé avec sa guitare, quoi.
Exactement. Mais bon, on tombe parfois sur des statistiques qui donnent littéralement le vertige. En avril 2025, donc très récemment, la plateforme Deezer a annoncé un truc de fou. Plus de 20 000 titres entièrement générés par l'intelligence artificielle étaient mis en ligne chaque jour.
20 000 par jour? C'est juste.
C'est colossal. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, ça représentait près de 18% des nouveautés quotidiennes sur la plateforme.
C'est presque un 1/15 de toute la nouvelle musique mondiale.
C'est ça. Du coup, j'ai une analogie. C'est un peu comme si tu ouvrais ton frigo un matin et que tu découvrais que du jour au lendemain, ben 20% de la nourriture à l'intérieur était apparue par magie, sans qu'aucun agriculteur, aucun cuisinier, ni aucune usine n'y ait jamais touché.
J'aime beaucoup l'image du frigo. Ça capture vraiment bien cette sensation de submersion que beaucoup ressentent en ce moment dans l'industrie.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une plongée au cœur d'une analyse vraiment massive. C'est une étude menée par le Centre national de la musique et le cabinet Bearing Point. L'idée, c'est de comprendre si on assiste à la fin de l'artiste tel qu'on le connaît, ou au contraire à l'aube d'une toute nouvelle symphonie.
Voilà. Et le but, c'est pas de céder à une panique technologique aveugle. On est là pour décrypter concrètement ce qui se passe sous le capot. Parce que cette arrivée massive de contenu synthétique, bah, elle sort pas de nulle part en fait.
Non, c'est clair. C'est pour ça que notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer toute la chaîne de valeur, de la feuille blanche jusqu'aux oreilles des auditeurs.
C'est exactement ça. Il y a des opportunités de dingue pour la créativité, mais aussi des limites techniques réelles et une redéfinition totale des métiers.
Du coup, pour comprendre comment on en est arrivé à cette fameuse nourriture magique qui inonde nos plateformes, je pense qu'il faut d'abord regarder dans le rétroviseur.
Ah oui, un peu de contexte historique, c'est toujours indispensable.
Surtout que l'industrie musicale, bon, elle a un peu l'habitude de crier au loup, hein. On a cru que l'arrivée du format MIDI, puis des synthétiseurs et enfin de l'autotune allait complètement détruire la vraie musique.
À chaque fois, c'était censé être l'apocalypse.
Et finalement, c'est juste devenu de simples outils. Mais là, quand on lit l'étude, on s'aperçoit que l'évolution de l'IA s'est faite par vagues successives et qu'on vient de franchir un cap totalement différent.
Ouais, la chronologie est hyper révélatrice d'un changement de paradigme. Dès les années 50 et 60, il y a eu des expérimentations, genre la composition algorithmique avec la fameuse Iliac Suite.
Attends, dans les années 50, les ordinateurs prenaient la taille d'une pièce entière à l'époque, hein.
Oui. Absolument. À l'époque, il s'agissait juste de programmer des règles mathématiques strictes pour générer des partitions classiques. Ensuite, dans les années 90, on a vu émerger ce qu'on appelle les algorithmes évolutionnaires. Surtout avec les travaux du chercheur David Kopp.
Évolutionnaire, hein. Genre au sens biologique du terme. On appliquait des principes de mutation génétique à des notes de musique.
C'est exactement le principe, ouais. Au lieu d'écrire une mélodie de A à Z, le programmeur crée une population de départ avec des petits motifs musicaux aléatoires.
D'accord, donc une sorte de bouillon de culture musicale.
Voilà. Et ensuite, l'algorithme applique une fonction de sélection. Il évalue quelle combinaison sonne le mieux selon des critères préétablis, par exemple le style de Bach. Les motifs qui survivent sont croisés entre eux avec de légères mutations aléatoires.
C'est de la sélection naturelle appliquée aux notes, c'est fascinant!
Exactement. Et sur des milliers de générations informatiques, la machine fait émerger des compositions super logiques. Mais ça restait un processus très lent, très académique.
Donc là, on était encore bien sagement dans les laboratoires, et j'imagine que c'est l'arrivée du machine learning dans les années 2000 qui vient tout chambouler.
Le grand virage se situe là, ouais. Avec le machine learning, au lieu de coder des règles, on donne à la machine des milliers d'exemples audio. Elle apprend d'elle-même à identifier les motifs.
C'est ce qui permettait de détecter le tempo automatiquement, par exemple.
Tout à fait. Et ensuite, paf, les années 2010 ont introduit les réseaux de neurones profonds, le deep learning, capables d'analyser des contextes sonores super complexes. Mais la véritable ligne de faille, le moment où le sol s'est vraiment dérobé sous nos pieds, c'est décembre 2023.
L'arrivée des modèles génératifs à grande échelle?
Exact. Le lancement de modèles comme Suno a marqué l'avènement du texte vers audio, le fameux prompt.
Le moment où l'on tape bêtement « Fais-moi une chanson de rock psychédélique sur un chat qui boit du café » et genre 30 secondes plus tard, on a une voix de synthèse, une batterie, des guitares, avec une qualité de production presque terrifiante.
Ce qui est fascinant ici, c'est le glissement. On passe de l'assistance à la génération autonome.
Et c'est là qu'on a vu exploser ces exemples viraux qui ont créé un séisme absolu. Je pense direct à ce morceau incroyable, Heart on My Sleeve.
Ah oui, l'affaire Drake et The Weeknd.
C'est ça, un producteur anonyme a littéralement cloné leur voix. Le titre a fait 1 million d'écoutes sur TikTok en un temps record avant d'être supprimé en panique par les labels.
C'était un vrai cas d'école.
Il y a aussi eu ce producteur, Link A, qui a remixé le titre Cyan en utilisant un clone vocal parfait de la chanteuse Angèle. L'ironie ultime de cette histoire, c'est qu'Angèle a fini par chanter cette version générée par l'IA en direct lors d'un festival.
C'est fou, hein? Mais la mécanique derrière ces clones, elle est révélatrice de la puissance des modèles actuels. Le logiciel, en fait, il se contente pas de copier un son bêtement. Il cartographie les caractéristiques biométriques d'une voix.
C'est-à-dire?
Le timbre, la respiration.
Ouais, son timbre, sa résonance, la façon dont l'artiste attaque les consonnes et étire les voyelles. Et ensuite, il plaque cette empreinte sur une nouvelle performance vocale. L'outil historique, il corrigeait une fausse note. L'outil actuel, il te propose l'intention émotionnelle. Ce qui amène inévitablement à regarder ce qui se passe à huis clos, dans les studios d'enregistrement, aujourd'hui. On pourrait croire que la machine va juste remplacer tous les artistes d'un coup, mais l'étude du CNM montre une réalité de terrain beaucoup plus nuancée.
Ben, l'IA semble agir avant tout comme un remède radical contre l'angoisse de la page blanche. C'est la notion d'IA comme sparring partner.
J'adore cette expression. Donc c'est quelqu'un avec qui tu t'entraînes sur le ring musical.
C'est exactement ça. Dans la création, la friction vient souvent de l'exploration initiale. Un artiste cherche une progression d'accord ou un angle pour un texte. Aujourd'hui, il formule une requête et la machine lui propose instantanément une dizaine de variations complexes.
Donc ça permet de tester plein de trucs sans se ruiner, en fait.
Totalement. Au lieu de payer des musiciens de session pendant 3 jours pour essayer des arrangements de cuivre sur un pont musical, le producteur génère des maquettes hyper sophistiquées en 5 minutes. Les barrières techniques et financières s'effondrent.
Et j'ai une analogie pour ça, dis-moi ce que tu en penses. C'est un peu comme le métier d'architecte aujourd'hui. Fini le temps où on dessinait chaque brique à la main sur un calque. L'architecte utilise un logiciel 3D, il entre ses contraintes et paf, le logiciel génère 50 maisons possibles.
Ouais, c'est une très bonne image.
Ensuite, l'architecte choisit la meilleure, affine l'éclairage, modifie un matériau. Mais la question qui émerge direct, c'est celle de la paternité du génie. Si je demande à la machine de me faire un pont épique avec des violoncelles et qu'elle me sort une mélodie de dingue à laquelle j'aurais jamais pensé, bah à qui appartient le mérite?
Ah, ça soulève des débats légitimes. La ligne de démarcation entre l'inspiration et la génération automatisée devient super floue. Mais l'étude précise une distinction fondamentale sur la finalité de l'œuvre. Il y a une vraie dichotomie.
Entre quoi et quoi?
Entre la création de musique standard et la création de musique singulière. Les modèles actuels, ils sont redoutables pour ce qu'on appelle la musique d'illustration.
Ok, donc on parle de la musique qu'on entend en arrière-plan d'une émission de télé-réalité ou la petite boucle sonore d'une pub pour du shampoing, quoi.
Voilà. Pour ces usages fonctionnels, la substitution algorithmique fonctionne à merveille. Le réalisateur a besoin d'une texture joyeuse et dynamique, il la génère en 3 secondes sans payer des droits énormes.
C'est le côté pratique.
Mais en revanche, dès qu'on touche à une production de haute volée, comme un album d'auteur ou une bande originale de film ambitieuse, les outils actuels atteignent leurs limites.
L'étude mentionne qu'il manque de capacité de modulation fine, c'est ça?
Ouais, la machine produit un son qui manque de micro-variations de tempo, de cette respiration, de cette saleté parfois, qui fait vraiment l'empreinte humaine. Le résultat reste un excellent brouillon, mais c'est rarement du produit final haute couture.
Sauf que si on admet que toute cette musique de fond, ce brouillon indispensable à l'industrie, peut désormais être produit pour 0 €, bah on arrive au cœur d'un énorme séisme social.
Et c'est là que ça pique.
Il y a des milliers de professionnels dont le métier, c'est justement de produire cette musique standardisée. Quand on regarde les dynamiques, on a l'impression d'assister à l'ubérisation totale du musicien de studio ou de l'ingénieur du son spécialisé dans des tâches répétitives.
Les métiers basés sur une dimension d'exécution technique pure, ils sont incontestablement en première ligne. Un technicien dont le seul job est de nettoyer les pistes vocales pour enlever les bruits de salive, ou un bassiste de studio qui applique machinalement un arrangement pop standard.
Leurs savoir-faire sont directement concurrencés par des plugins en un clic.
Exactement. À l'inverse, l'étude pointe que les carrières protégées, ce sont celles qui reposent sur la réputation et l'expertise. Un réalisateur de renom, engagé pour sa vision globale et sa façon de diriger l'artiste psychologiquement, lui, il ne sera pas remplacé.
Alors là, franchement, je ne suis pas sûre d'acheter totalement cet argument de la réputation protectrice. La réputation, ça se construit sur des années, voire des décennies. Qu'est-ce qui se passe pour la bassiste ou l'arrangeur de 20 ans qui sort tout juste d'une école de musique ?
C'est un très bon point.
Si les studios utilisent l'IA pour faire toutes les maquettes de base et toute la musique de fond, ces jeunes n'ont plus d'espace pour faire leurs armes. On supprime la base de la pyramide d'apprentissage. Comment les futurs grands talents vont émerger s'ils peuvent plus faire la main sur ces tâches ?
C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du junior. Et c'est une tension majeure soulevée par les professionnels. La porte d'entrée traditionnelle se referme. Mais, et c'est là que c'est intéressant, d'autres portes s'ouvrent.
Lesquelles ?
On observe l'émergence des néo-professionnels. Imagine un parolier brillant qui n'a aucune formation musicale et qui chante faux, mais vraiment faux. Historiquement, il dépendait des autres pour vendre son texte.
Et aujourd'hui, il tape un prompt sur Suno.
Il génère une ligne de chant parfaite avec une voix de synthèse, produit une maquette hyper convaincante et la vend à un label. Ce n'est plus la virtuosité instrumentale qui prime, mais l'art de prompter la machine.
Donc, le musicien de demain devra autant maîtriser l'art de parler à l'algorithme que de jouer de la guitare. C'est fou! Mais si ces outils sont accessibles à tous, ça modifie aussi l'équilibre des pouvoirs, non? Entre le jeune artiste indé dans sa chambre et les immenses labels historiques, les fameuses majors...
Complètement. Pour les petites structures indépendantes, c'est un gain de compétitivité inédit. Elles peuvent faire des visuels incroyables et sortir des projets aboutis avec des budgets microscopiques.
D'accord, mais attends. Les majors, elles ont des milliards. Elles vont pas se laisser disrupter si facilement. Elles ont les moyens de développer leur propre modèle d'IA, entraîné sur leurs immenses catalogues qui contiennent un siècle d'histoire de la musique. Le petit indé risque pas de se faire écraser par une IA encore plus puissante.
Si, la puissance de frappe technologique des majors est écrasante, c'est un fait. Elles ont des outils propriétaires inaccessibles au public. C'est pourquoi le rôle des labels traditionnels doit évoluer.
Ils peuvent plus juste faire un chèque pour louer un studio.
Exactement. S'ils font juste ça, leur valeur ajoutée est nulle. Le label de demain devra fournir un accompagnement stratégique profond, miser sur l'humain, raconter une histoire autour de l'artiste. Des choses que la machine ne gênera pas d'un simple clic.
Ce qui nous amène logiquement à une transition fondamentale. Si l'accès à une production de haute qualité devient quasiment gratuit grâce à l'IA, le goulot d'étranglement se déplace. Le problème n'est plus comment créer cette chanson complexe, mais plutôt comment faire pour que quelqu'un l'écoute parmi les 20 000 autres morceaux sortis aujourd'hui.
La fameuse bataille de l'attention.
La bataille s'est déplacée du studio vers le public. Et l'ironie absolue, c'est que la seule force capable de trier cet océan de musique généré par l'IA, c'est une autre IA.
L'algorithme de recommandation. C'est lui l'arbitre absolu maintenant. Ces systèmes ingèrent des milliards de données. Ils croisent le temps d'écoute, le moment de la journée et tes interactions sociales pour te cibler chirurgicalement.
Mais il y a un aspect de tout ça dont on parle très peu, parce que c'est pas très glamour. Pourtant, c'est la vraie colonne vertébrale, hein. Les métadonnées. L'étude montre que l'IA fait le ménage là-dedans. Pour un auditeur, les métadonnées, c'est ennuyeux à mourir. Pourquoi c'est une question de survie pour les créateurs ?
Parce que les métadonnées, c'est le système nerveux de la rémunération. Quand un titre est joué à la radio au Japon ou en fond sonore sur une vidéo, il y a souvent des erreurs de saisie.
Genre le nom mal orthographié ou un code manquant.
Voilà. Et l'argent s'accumule dans ce qu'on appelle les boîtes noires des sociétés de gestion et l'artiste n'est jamais payé. Aujourd'hui, l'IA génère des empreintes audio, des sortes de codes-barres sonores. Elle scanne en continu les diffusions mondiales et remet de l'ordre dans ce chaos pour assurer que le bon ayant droit reçoive son argent.
C'est incroyable! La machine se transforme en super comptable pour sauver les humains. Et cette intelligence, elle s'invite aussi dans l'expérience live, non? Je pense au concert virtuel de Travis Scott dans Fortnite.
Absolument! L'expérience devient adaptative. Lors de ces concerts, des algorithmes évaluent l'engagement du public en temps réel. Les mouvements de la foule virtuelle, les réactions et la lumière ou même la structure musicale s'adaptent pour maximiser l'impact.
On voit ça aussi sur nos téléphones. Avec la génération de playlists, on peut demander à l'IA « Crée-moi une playlist qui commence par du jazz mélancolique et qui monte vers de la funk entraînante pour une soirée. » Et elle le fait.
En langage naturel, ouais, c'est magique.
Mais, et c'est un grand mais, il y a un danger caché là-dedans. Si on utilise les mêmes modèles génératifs pour fabriquer la musique et les mêmes algorithmes pour la recommander, on risque pas de s'enfermer dans une énorme bulle de filtre avec une bouillie sonore mondiale parfaitement standardisée.
C'est le grand risque de standardisation esthétique souligné par le rapport. Si la musique générée s'appuie toujours sur la moyenne statistique de la musique existante, l'innovation va stagner. Tout le monde va écouter la même chose.
Comment on évite ça, alors?
L'industrie travaille sur des technologies de détection comme des filigranes sonores, le watermarking, des codes invisibles à l'oreille pour identifier les morceaux purement générés par la machine et ainsi protéger et valoriser les créations avec une vraie démarche humaine.
Donc, quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, on voit bien que l'IA dans la musique, c'est ni l'apocalypse, ni un bouton magique inoffensif. C'est une mutation totale.
De la création à la distribution, oui.
La machine propose des idées, nettoie les données, recommande les sons. Mais paradoxalement, vu que l'exécution technique parfaite est à la portée de tous, ça oblige les créateurs à se recentrer sur l'essentiel. La faille humaine, la vulnérabilité, l'histoire personnelle. En fait, si n'importe qui peut produire un morceau parfait, l'imperfection devient l'art.
Exactement. Un algorithme peut simuler la tristesse avec une précision effarante, mais il n'a aucune vision du monde à partager. C'est dans ce supplément d'âme que l'artiste doit s'ancrer pour survivre au flux.
Et ça m'amène à une pensée provocatrice pour terminer. On sait que les IA actuelles sont super performantes parce qu'elles se sont entraînées sur des siècles de musique humaine.
Jusque-là, tout va bien.
Mais que se passera-t-il dans 10 ans, quand ces fameux 20 000 titres quotidiens générés par des machines auront inondé la toile? Les futures IA finiront forcément par s'entraîner sur des musiques créées par d'autres IA.
Ah oui, c'est ce que les chercheurs appellent l'effondrement du modèle.
Exactement. Est-ce qu'on va assister à une dégénérescence, une patte sonore infiniment fade qui tourne en boucle? Ou au contraire, à force d'hallucinations algorithmiques, la machine va-t-elle accoucher d'un genre musical totalement extraterrestre et incompréhensible pour nos oreilles?
C'est le vertige absolu, l'apogée de l'ennui, ou une symphonie d'une autre dimension, on le découvrira bien assez tôt.
Une vraie réflexion à garder en tête. La prochaine fois que vous verrez un nouveau titre viral apparaître magiquement, on regardera sans doute ce frigo numérique dans tout autre œil.